Je vous invite à ouvrir votre Bible dans Colossiens chapitre 3. Alors Colossiens chapitre 3, nous avons terminé la semaine dernière le verset 4. Nous allons lire ce soir les versets 5 à 14. Faites donc mourir ce qui dans vos membres est terrestre. La débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les filles de la rébellion. C'est ainsi que vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns les autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Ainsi donc, comme des élus de Dieu, saints et bien-aimés, revêtez-vous, et j'aime dire revêtons-nous, de sentiments de compassion, de bonté, d'humilité, de douceur, de patience. Supportez-vous les uns les autres, et si l'un a sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, vous aussi pardonnez-vous. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Je pense, avec une petite pointe d'humour évidemment, que si Paul avait vécu ces derniers siècles, et là tu peux mettre l'image, il nous demanderait d'être, sur la base de ce texte-là, d'être des montgolfiers. Comment ça, des montgolfiers? Alors, j'ai voulu imager, hein, les montgolfières, il y a... C'était pour ceux qui ne savent pas trop ce que c'est. Une montgolfière, c'est un principe d'une grande poche, un grand sac, avec de l'air chaud qui est dedans, et l'air chaud étant plus léger que l'air froid, donc ça s'élève. On a tous vu des feuilles qui volaient quand il y avait le feu, hein, quand on fait le feu, les feuilles là, parce qu'elles sont portées par l'air chaud. Et puis en bas, il y a la petite nacelle avec des gens dedans. Alors voilà, je vais amener quelques photos amusantes, parce qu'il existe différentes formes, etc. Et je pense que ce texte-là, ou plutôt l'illustration, la montgolfière, est une parfaite illustration pour comprendre la pensée que Paul veut amener. Vous savez que depuis le chapitre 3, le premier verset, Paul aborde plusieurs exhortations sur la mentalité du chrétien. La semaine dernière, on avait vu deux mots qui étaient forts dans la pensée de Paul. C'était rechercher et s'attacher aux choses d'en haut. Vous vous rappelez ? Rechercher, s'attacher aux choses d'en haut. Et là, elle continue cette pensée à l'image de la montgolfière. C'est beau une montgolfière, non? C'est joli à voir, on peut imaginer... Alors, j'ai pas mis d'autres photos, mais tantôt, on voit les montgolfières au milieu d'un paysage très, très, très joli, quoi, sur des rivières, etc. Mais malheureusement, toutes les montgolfières ne volent pas. Et là, on peut passer l'image d'après. Vous voyez, des montgolfières, par nature, leur vocation, c'est de monter. L'air chaud qu'elles ont dedans les pousse à se lever. Mais il y a des montgolfières comme ça qui sont juste en exposition et on les retient par des cordes. Et là, on commence déjà à rentrer dans le vif de notre sujet. Parce que Paul nous demande, en tant qu'enfant de Dieu, de couper les liens, de couper les cordes qui nous retiennent à cette vie d'en haut. Rappelez-vous, recherchez les choses en haut. Attachez-vous aux choses en haut. Notre destinée, elle est céleste, elle est spirituelle, elle est au-delà de cette vie misérable. Et là, Paul, qu'est-ce qu'il nous dit de détacher comme lien? Eh bien, il le dit au verset 5, la débauche, l'impureté, les passions, les mauvais désirs, la cupidité qui est une idolâtrie. Au verset 8, il nous parle d'autres liens, d'autres cordages comme ça, qui, malgré qu'il y ait quelque chose au-dedans de nous qui nous fasse élever, il y a la colère, il y a l'animosité, la méchanceté, la calomnie, la médisance, les paroles équivoques, le mensonge. Et on comprend bien que dans cette liste, elle n'est pas exhaustive. Soyons des montgolfières, mais coupons toutes ces cordes, coupons tous ces liens qui nous ramènent à la misère de cette terre. Nous sommes appelés à nous détacher des choses de la terre. Et en tant que chrétiens, mais nous sommes les premiers attristés quand on entretient tous ces péchés, tous ces vices, tous ces mauvais penchants, toutes ces colères, toutes ces mauvaises pensées. Et là, on voit que c'est à la fois la pratique, on voit au sens des actes, on voit qu'il évoque également la notion des pensées et qu'il évoque la notion de la langue. Toutes les fois que nous nous laissons aller à tout ce qui est contraire à la parole de Dieu, on se décroche du ciel et on se colle de plus en plus à la terre. C'est pour ça que un chrétien qui vit dans le péché, c'est un chrétien qui est malheureux. Malheureux au-dedans de son cœur. Malheureux parce qu'il ne fait pas d'expérience avec le Seigneur. Malheureux parce qu'il n'arrive pas à se rapprocher des choses célestes. Oh, il aimerait bien parce que lui, bien sûr, il aimerait aussi avoir le bénéfice du royaume des cieux. Mais à cause de tous ces liens qu'il laisse, qu'il entretient, et il n'y en a pas 50 000 des cordes pour retenir une montgolfière, hein. Deux suffisent pour un peu équilibrer la chose. Nous aussi, nous devons être vigilants et être conscients que toutes ces choses de la terre nous retiennent vers le bas. Alors Paul insiste et il nous montre que c'est notre responsabilité que de couper ces cordes et ces liens. On entend de temps en temps des gens qui disent « Oh Seigneur, aide-moi, brise ces liens, brise ces chaînes, mais, c'est pas du tout la pensée que Paul donne. » Au verset 5, qu'est-ce qu'il dit? Il dit « Faites donc mourir !» Faites donc mourir. Il y a donc, comprenez ce que je veux dire, mais il y a donc une action volontaire de notre part. Faire mourir. Si on prenait un autre mot, on dirait « tuer ». Faire mourir, c'est ça, c'est tuer. Pour tuer quelqu'un, il faut passer à l'action. Vous me regardez avec des yeux un peu... Mais vous comprenez? Quand Paul dit « faites mourir », c'est une action volontaire, c'est un acte qui demande de notre part un engagement, un élan. C'est pas un accident. Faites donc mourir. Alors bien sûr, nous interdisons, la parole de Dieu nous interdit de tuer quelqu'un. Mais c'est quand même cette image forte que Paul nous laisse à nous-mêmes. Faites donc mourir. Ce qui dans vos membres? Ce qui dans votre corps, ce qui dans votre vie vous amène à pécher. Je suis pour la peine de mort. La mort du vieil homme. La mort de notre vieux caractère. La mort de celui qui est en nous et qui lui nous pousse aux choses de cette terre, qui nous pousse à la méchanceté, qui nous pousse à la colère. Oui! Et c'est ce que dit, faites donc mourir, nous devrions apprendre à mourir. On doit apprendre à tuer, à détruire, à anesthésier, à arrêter tous ces élans qui viennent de l'intérieur et qui nous pousseraient, en pensée, en parole ou en action, à mal agir. Je ne sais pas si je vous ai donné cette petite anecdote, mais vous savez, toutes nos envies ne sont pas bonnes. Toutes nos pulsions ne sont pas bonnes. Et c'est ça qu'il faut détruire, c'est ça qu'il faut tuer. L'anecdote, c'est celle d'un vieux couple qui fêtait ses 60 ou 70 ans de mariage. Alors c'est pas commun, hein, 60-70 ans de mariage, c'est à la maison de retraite, etc. Et puis ils étaient tous les deux, le couple. Il y a un journaliste qui était allé interroger le monsieur en l'occurrence, qui dit mais c'est extraordinaire, 60-70 ans, 60 ans de mariage, mais vous savez aujourd'hui c'est tellement rare, dites-nous, vous avez jamais pensé au divorce? Alors le monsieur réfléchit. Il dit au divorce, non. À la tuer, oui. On peut avoir de temps en temps des mauvais instincts, des mauvaises envies. Mais c'est pas parce qu'on a des mauvaises envies qu'il faut les faire. Et en tant que croyant, en tant que chrétien, en tant qu'enfant né de nouveau, nous sommes appelés à tuer ces instincts que nous savons ne pas être à la gloire de Dieu. Rappelons-nous, Dieu ne veut pas changer notre tempérament, il ne veut pas changer notre personnalité, mais il veut changer notre caractère, il veut changer notre manière de réagir. Et c'est deux choses différentes. Et si Dieu nous aidera, Dieu nous invite à nous-mêmes de faire mourir, à faire mourir. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait déjà de notre propre volonté, qu'il y ait déjà de notre propre part une volonté à faire mourir ce vieil homme. Et d'ailleurs, c'est ce qu'il va insister au verset 8. Il va dire « renoncer à toutes ces choses ». Qu'est-ce que c'est que le renoncement? Si ce n'est un choix? Une acceptation? Oui, Seigneur, j'accepte de renoncer à ma colère. J'accepte de renoncer à ma réponse. J'accepte de ne pas répondre. J'accepte de prendre l'humiliation pour ne pas attiser le feu. J'accepte, Seigneur, d'être humilié afin de ne pas m'engager dans une conversation stérile qui animera encore d'autres paroles. J'accepte de me taire au lieu de réagir. J'accepte de renoncer. J'accepte de renoncer. Malheureusement, peut-être est-ce que vous avez aussi vu de ces témoignages de gens qui ont été miraculeusement délivrés de l'alcool, du tabac, de la drogue, de la pornographie, de mauvais caractère. Et ils ont vu l'action de Dieu mais faire ce miracle extraordinaire. Peut-être même est-ce que leur envie n'était pas à la hauteur de cette délivrance, mais ils ont été délivrés miraculeusement par le Seigneur. Alléluia! Mais parce qu'ils n'avaient pas renoncé dans leur cœur, ils sont retombés. Il ne suffit pas seulement de dire « Seigneur, délivre-moi !» Mais l'apôtre Paul nous encourage à renoncer à ces choses. Donc il y a déjà dans notre cœur une prise de position. « Non, je ne veux pas. Seigneur, aide-moi. Je renonce à ces choses. Je veux vraiment détourner. Je les abandonne. Qu'elles soient légitimes ou pas légitimes. Qu'elles m'attirent ou qu'elles ne m'attirent pas. Je veux vraiment m'en éloigner. Je renonce. Je prends une position spirituelle. » Afin de ne pas me laisser attacher, brider. De ne pas rester un chrétien qui reste au niveau de la terre. Et on se rappelle encore la comparaison que Jonathan nous avait donnée entre l'aigle et la poule. Nous sommes appelés à être des aigles et pas des poules. Mais c'est complètement la pensée que Paul développe dans ce passage-là. Rejetez, faites mourir. On peut passer à l'image d'après? Et d'un autre côté, il nous rappelle quel est notre feu. Parce que, effectivement, c'est la nature de la montgolfière. Sa vocation, c'est de grandir. C'est parce que il y a le feu. Il y a le feu qui est allumé. Et ce n'est pas le feu pour le feu, d'ailleurs. C'est le feu qui va créer de l'air chaud, qui va être lui emmagasiné dans cette poche. Et cette poche va grandir, va se faire un ballon, ça va se redresser. Et cette masse d'air chaud va avoir la force d'élever notre nacelle. Mais c'est, spirituellement, c'est la même chose. Si on a un petit feu, un petit élan dans notre vie, on va pas aller très loin. Et quel est le feu? Quel mot dans ce passage? Est-ce qu'il remplace le mot feu? Mais c'est au verset 14. Mais par-dessus toutes ces choses, revêtez-vous de l'amour qui est le lien de la perfection. Notre feu, en tant que montgolfière, en tant que chrétien, c'est cette flamme céleste Et si notre feu est faible, alors on remplira jamais cette immensité qui est notre cœur, qui est notre vide intérieur. Jamais. Mais il faut qu'il y ait un feu ardent. Vous la voyez la flamme là, hein? Mais elle va continuer de brûler. Elle va pas s'arrêter. Elle va alimenter cet air chaud, cet air chaud. Et symboliquement, on pourrait dire que cet air chaud, il est défini là dans les versets. À partir du verset 12, il nous est parlé de quoi? Il nous est parlé de sainteté. Il nous est parlé de sentiment de compassion. Il nous est parlé de bonté. Il nous est parlé d'humilité. Il nous est parlé de douceur, de patience. Tout ça. Mais c'est cet air chaud qui sortira de cette flamme de l'amour. Quand il y a l'amour, il y a ça. Quand il y a l'amour, on communique ces choses-là. Et c'est ça, mes bien-aimés. Nous sommes appelés à être des montgolfières. Et nous devons allumer le feu. Pas un petit feu, mais un bon feu, un gros feu. Qui communique tout autour de nous cette chaleur, cette grâce. Et c'est ça qui va élever nos âmes, nos propres âmes. Et les âmes autour de nous. On doit stimuler cette flamme. J'ai encore eu cette expérience cette semaine. C'est pour revenir sur la notion de sainteté. J'attire votre attention sur ce lien. Saint et bien-aimé, revêtez-vous de sentiments. La sainteté n'est pas à mettre de côté par rapport à l'amour. C'est ce matin que j'ai reçu un mail extraordinaire qui me donnait des leçons sur l'amour, etc. etc. Merci beaucoup pour cette démonstration. Mais le but de ce mail, c'était de se justifier au nom de l'amour, au nom de l'amour, au nom de l'amour, à part que la personne qui m'envoie ça s'est séparée de sa femme pour se mettre avec une autre femme, et voilà. Alors au nom de l'amour de Jésus-Christ, mais il n'y a pas d'amour sans sainteté, il n'y a pas d'amour sans justice. Et le vrai feu nous amènera à la sainteté. Le vrai feu nous amènera à avoir des sentiments de compassion. Le vrai amour, le vrai feu de Dieu nous amènera à avoir un amour concret, pratique. Pas seulement en parole, nous dit la parole, mais en vérité. Derrière ces mots compassion, bonté, humilité, douceur, patience, c'est pas que des mots. Mais c'est des reflets de ce que nous doit être. Seigneur, s'il te plaît, anime ce feu dans ma vie. Moi, si j'ai un feu, c'est bien. Mais il faut que les autres ils soient dans la bonne atmosphère de cette chaleur. Sinon, c'est un feu figuratif, c'est tout. Soyons, et c'est la suite du verset 13, supportez-vous les uns les autres. Eh oui, c'est par amour qu'on va se supporter. Et le sens de supporter, c'est pas tu me saoules, mais je te tolère. Mais c'est au sens que David pourrait nous le dire, être un supporter de foot. Mais des vrais supporters. Aujourd'hui, on a des supporters, quand ça va bien, ils explodissent, et quand ça va pas, ils les insultent. Mais c'est pas ça, un vrai supporter. Un supporter, il est là dans les bons et les mauvais moments. Il exulte quand il y a le but. Et quand l'équipe passe par un moment difficile, eh ben, il y a encore les supporters qui sont derrière, qui les encouragent, qui les stimulent. Soyons de ces supporters. Ne changeons pas d'équipe sous prétexte qu'il commence à y avoir quelques problèmes. Alors je change d'équipe, hein. Moi, je suis pour le meilleur. Mais non, hein, c'est pas être ça, supporter. Être supporter, c'est être là depuis le début jusqu'à la fin. On va être là, on va se réjouir ensemble. Et puis quand c'est les moments difficiles, on va encore se supporter, s'encourager, s'exhorter. Croyant que le meilleur, c'est pour... C'est pour aujourd'hui et c'est demain. C'est ça être un supporter. Sire, allez, reprends courage. Et nous sommes appelés, mes bien-aimés, être animés de ce feu. J'anime ce feu, je me supporte, je te supporte. Et nous supportons. Et dans cet état d'esprit, nous allons nous élever. Forcément. Forcément. Vous avez tous entendu des sportifs qui vont dire, oh, c'est extraordinaire, on a été portés par nos supporters, n'est-ce pas? Mais c'est complètement ça. L'Église sera élevée si nous sommes des supporters les uns des autres. Et effectivement, cette notion de pardon qui est indispensable. Tout ça, c'est le même thème de l'amour, hein. On est juste en train de prendre un peu le temps de considérer la chose. Mais l'amour, c'est... Le pardon, C'est un lien indispensable, indispensable dans nos relations mutuelles. J'ai refait mes petits calculs, mais parce que j'en parlais récemment avec Woody. Mais c'est bien ça. C'est, vous avez, c'est bon, c'est encore, c'est anecdotique, c'est des images de manière à ce qu'on puisse s'en rappeler. Mais quand Jésus dit à Pierre, il faut que tu pardonnes 70 fois 7 fois, ça fait 490 fois, ok? Une journée, ça dure 24 heures. On retire le temps où on dort, parce que normalement, quand on dort, on n'est pas trop conscient. Il reste plus que 16 heures dans une journée. Si on fait 490 divisé par 16, ça fait 30 fois, un peu plus. 30 fois par heure, on doit pardonner. Bref, presque toutes les deux minutes. C'est une mentalité. Nous sommes appelés à vivre continuellement dans le pardon. Le pardon à l'égard de mon conjoint, le pardon à l'égard de mon collègue de travail, le pardon à l'égard de mes enfants, le pardon à l'égard peut-être de la vie, le pardon à l'égard des parents. Et on peut avoir toute une litanie de listes comme ça où quelque part on a gardé des rancunes, on a gardé du remords, on a gardé des épines, on a gardé de la colère, on a gardé des frustrations. Si nous ne sommes pas dans la logique du pardon, nous nous enfermons. Non seulement nous nous enfermons, mais nous enfermons également l'autre personne à qui nous refusons le pardon. Et là, on retrouve encore ces liens qui nous enchaînent. Mais une montgolfière, ce n'est pas fait seulement pour monter, c'est fait pour voyager. Et on peut mettre la dernière image. Soyons des montgolfières, élevons-nous, mais pour aller vers une direction, celle de Jésus. Et c'est ce qui est écrit au verset 10. Ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Je vous lis le même verset en français courant, c'est un peu plus explicite. Vous êtes revêtus de la nouvelle nature, vous êtes des êtres nouveaux que Dieu, notre Créateur, renouvelle continuellement à son image pour que vous le connaissiez parfaitement. Et nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à être de ces montgolfières qui coupent ces liens. Tous ces liens qui nous ramènent aux choses matérielles, misérables. Nous sommes appelés à entretenir ce feu à l'intérieur de nous, afin de pouvoir dégager cette chaleur, ce vent agréable, cette douceur tout autour de nous. Mais nous sommes appelés à avoir une direction. C'est celle de ressembler à Jésus. Dieu nous a créés. Nous sommes des nouvelles créatures qui se renouvellent à l'image de notre Sauveur Jésus-Christ. Alors, par hasard, en regardant les images, ça c'est une montgolfière que vous voyez là en fait. Une montgolfière qui a la forme de celui qu'on appelle le Christ Rédempteur, qui est, je ne sais plus, Sao Paulo, et qui est sur une des grandes montagnes de Sao Paulo, et voilà. Et ce qui est écrit dessus là, c'est « Keep the faith », c'est garder la foi. Alors soyons de ces montgolfières. Activons ce feu, développons-le et coupons les liens, parce qu'il ne peut y arriver dans le temps qu'on active le feu, on active la vie de l'esprit, on active l'amour, et puis pourtant on a l'impression qu'on ne décolle pas, mais oui, parce que si à côté on manque de sanctification, si à côté on pêche, si à côté on a une langue misérable, si à côté on refuse de pardonner, si à côté on a tous ces liens qui nous retiennent à la terre, alors on ne décollera jamais, jamais. Mais par la grâce de Dieu, apprenons à couper, apprenons à renoncer, apprenons à tuer notre vieil homme. Et le Seigneur nous donnera cette occasion de voir combien il est doux, de se lever. Et c'est la foi, hein, franchement, c'est quand même incroyable de voir un gros bonhomme comme ça qui s'élève et qui après est capable de se diriger. Le Seigneur a pour nous des projets qui sont bons, qui sont agréables. Seigneur, donne-nous de te ressembler. En pensée, en parole, en action, pour que jour après jour, nous puissions effectivement être collés à lui et être plus proches du ciel que de la terre. Amen.